Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous confortablement et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 4 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec un nouveau record de contamination.
Près de 300 000 cas de Covid sur les dernières 24 heures, chiffre rendu public par le ministre de la Santé lui-même. Toutefois, à ce stade, les services de réanimation sont moins débordés que lors d'autres vagues, sauf dans une région de France, en PACA, à Marseille en particulier, où les soins intensifs sont déjà saturés. Et reportage en début de journal. Ambiance très chahutée encore à l'Assemblée ce soir après le coup de théâtre d'hier, la suspension des débats sur le pass vaccinal provoqué par l'opposition. Les discussions vont reprendre d'une minute à l'autre. Le ministre de la Santé encore pris pour cible, on l'entendra. À suivre aussi la grande confusion à l'école avec des cas contacts et des classes qui ferment par dizaines. Nous serons à Lyon. Les premières possibles sanctions disciplinaires contre les policiers en charge de l'affaire Chaynaise, cette femme brûlée vive par son ex Marie à Mérignac en mai dernier. Et puis pour terminer, des tarifs bancaires en hausse pour l'année qui vient. Détail en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde à Hong Kong. Ce soir, au lendemain de la prestation de serment des patriotes du Conseil législatif, Pékin a définitivement mangé Hong Kong. On en parle avec notre premier invité. Puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, nous sommes heureux d'avoir votre avis et vos questions sur cette drôle de campagne électorale en cours, phagocytée par le Covid. Est-ce qu'elle en est faussée ? Où au fond la télé est-elle plus importante que les meetings? Une campagne aussi sur une démocratie cannibalisée par le Covid. Le ton des débats sur le pass vaccinal en sont une preuve de plus. À vos téléphones donc au 01 45 24 7000.
France Inter.
La vague Omicron ne cesse donc de monter.
Le dernier record daté de la fin de l'année, 230 000 cas fin décembre. Nouveau record donc aujourd'hui, pas loin de 300 000 contaminations sur les dernières 24 heures. Chiffre transmis par Olivier Véran devant l'Assemblée nationale cet après-midi. On l'entendra dans la suite du journal. Au-delà des chiffres, la question c'est de savoir si l'hôpital et notamment les services de réanimation vont réussir à tenir face à cette cinquième vague. La réalité est contrastée sur le terrain globalement. Dans l'Hexagone, les soins critiques sont en situation tendue, mais on manque de bras, mais il reste encore de la marge de manœuvre. En revanche, il est un département en France où la situation est plus inquiétante, les Bouches-du-Rhône. Là-bas, les soins critiques sont déjà saturés, au-delà de leur capacité d'accueil. 300 malades en réanimation sur le département, essentiellement des non-vaccinés touchés par le variant Delta. Et c'est sans compter sur l'impact encore incertain d'Omicron. Illustration à l'hôpital Nord de Marseille, où l'on serre les dents, reportage. William Delesseux.
Une dizaine de patients dans les chambres du service de réanimation. Aucun d'entre eux n'est vacciné. Abdelkader, la quarantaine, respire grâce aux appareils autour de lui.
Ils m'ont trouvé par terre et ils m'ont ramené ici.
Vu ce qui vous est arrivé là, est-ce que vous vous seriez fait vacciner?
Ah oui, bien sûr.
Derrière une autre porte vitrée, une femme de 30 ans, inconsciente face à elle, sont accrochés à un mur des dessins.
C'est les dessins de ses enfants.
Charlotte Arbelot, médecin en réanimation.
C'est une dame qui a eu une césarienne il y a quelques jours parce qu'elle s'aggravait sur le plan respiratoire pour son Covid, pour sauver cette dame et son enfant.
Et face au nombre d'admissions ici, il faut se préparer à pousser encore les murs.
Là, pour l'instant, on arrive à tenir parce qu'on a été flexible, comme à chaque vague, en fait, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit accueilli dans les meilleures conditions possibles.
Ouvrir des lits sera difficile, prévient le chef du service, le professeur Marc Léon.
On n'a pas beaucoup d'autres capacités en termes de création de lits et les moyens humains restent la contrainte la plus pesante.
Le service accueille aussi des patients non-Covid, moitié moins que d'habitude, par manque de place en ce moment. Marseille, William Delesseux, France Inter.
Alors qu'il est le pass vaccinal aurait dû être adopté par l'Assemblée nationale.
Mais c'était sans compter avec ce coup politique retentissant de l'opposition et ce revers pour le gouvernement, les députés d'En Marche, pas suffisamment nombreux, mis en minorité tard hier soir par les élus LR, France Insoumise et du Rassemblement National, qui ont réussi à faire suspendre les débats jusqu'à aujourd'hui. Le calendrier parlementaire est donc bouleversé. Les débats ont repris ce soir, devraient se poursuivre tard dans la soirée, avec dans la nuit même, avec 500 amendements à examiner pour une adoption définitive, vraisemblablement demain après-midi. En attendant, le retour dans l'hémicycle était très tendu cet après-midi lors des questions au gouvernement, à l'image de cet échange entre le député LR Michel Vialet et le ministre de la Santé Olivier Véran.
Vous êtes déconnecté du quotidien vécu par les Français. Des queues interminables devant les pharmacies qui sont en rupture de stock de tests. car comme d'habitude, vous prenez des décisions sans en organiser les conséquences logistiques. Un nouveau protocole que les enseignants découvrent le jour de la rentrée, sans moyens, car comme d'habitude, vous prenez des décisions et laissez le corps enseignant seul. Le groupe Les Républicains demande de mettre en place une véritable politique de test à grande échelle à l'école.
Monsieur le député, j'ai le regret de vous informer. Je vous dis que j'ai le regret, nous on en est plutôt fiers dans la majorité, mais que la France est le deuxième pays qui teste le plus au monde par rapport à sa population. Vous nous reprochez parfois de prendre des décisions à l'emporte-pièce, en tout cas qui sont d'application trop rapide, si j'ai bien compris. Moi, j'ai parfaitement compris que pour vous, on avait le temps avec le virus. On avait le temps de ne pas siéger la nuit. Aujourd'hui, Santé publique France risque d'annoncer pas loin de 300 000 contaminations sur 24 heures. Vous considérez encore une fois qu'il n'est pas lieu de siéger après minuit ou qu'on verra plus tard pour le pass vaccinal. Nous considérons qu'il y a urgence. Et enfin, j'ai bien compris que pour votre groupe des Républicains, il était possible de priver les enfants d'école, mais impensable de priver les antivax de resto.
Voilà, des propos recueillis à l'Assemblée par Yaël Gauz. Ambiance moins tendue, mais très confuse, cette fois au sein des écoles primaires, avec la rentrée, le nouveau protocole sanitaire et les cas qui explosent. C'est la pagaille dans les établissements scolaires, des classes qui ferment d'une heure à l'autre, des enfants de soignants qui peuvent rester mais dont on ne sait pas quoi faire, des parents désemparés avec leurs enfants sur les bras. Illustration à Lyon avec Christophe Vincent.
Devant cette école, une mère récupère sa fille. Elle a dû chambouler tout son programme.
Il y a 3 cas Covid dans la classe de ma fille, donc l'école a appelé tous les enfants, donc on vient les chercher le plus rapidement possible. On fait un test, voir s'il est négatif pour pouvoir revenir jeudi à l'école. Et on n'a pas vraiment le choix, donc faut se protéger.
Julien ramène son fils, testé négatif. Il témoigne d'un certain flottement.
Nous, on a eu 2 cas de Covid signalés hier soir. Et donc, il a fallu en urgence ce matin faire tester donc, notre enfant. Donc, rendez-vous 9h30, mais une énorme, immense file d'attente en arrivant en pharmacie. Et on sentait qu'ils étaient un peu dépassés aussi. C'est carrément chaud, ouais. Dans touchant de la peau de singe, il va bien. Limite, il aurait préféré être positif pour pas aller à l'école. Non, mais on va s'en sortir.
Dans cette autre école, des parents reprennent leurs enfants, mais pas tous. La directrice s'organise.
Cet après-midi, les enfants sont isolés au niveau de la restauration, au niveau des récréations et de la garderie du soir. On essaie d'éviter qu'ils soient ensemble. Les parents jouent le jeu. Ça permet que les classes restent ouvertes. Pour les enfants, c'est primordial.
Enseignants et parents regrettent une gestion au jour le jour, teintée d'improvisation. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Les labos et les pharmacies de leur côté ne désemplissent pas, tout comme les grandes surfaces désormais qui vendent depuis la fin de l'année des autotests en magasin. Près de 500 000 boîtes, c'est-à-dire près de 2 millions d'autotests ont été écoulés en 4 jours. Une vente autorisée à titre exceptionnel jusqu'à la fin du mois. C'est un soulagement pour les entreprises en difficulté depuis le début de la crise sanitaire. Les conditions de remboursement des PGE. Les prêts garantis par l'État sont assouplis. Les entreprises auront désormais la possibilité d'étaler leur paiement sur 10 ans et de décaler leur premier remboursement.
Des policiers qui risquent d'être sanctionnés dans l'affaire Chaynaise.
Cette affaire de féminicide à Mérignac, près de Bordeaux, en mai dernier, lors de laquelle cette femme de 31 ans avait été brûlée vive en pleine rue par son ex-mari violent et dont elle était séparée. 6 policiers, dont le patron de la police en Gironde, étaient convoqués aujourd'hui devant 2 conseils de discipline à Paris et à Bordeaux. Emmanuel Leclerc.
Pour les commissaires, il y a eu près de 4 heures d'explications, de débats sur des manquements, sur l'organisation des enquêtes et les dysfonctionnements qui ont abouti à empêcher d'arrêter un meurtrier avant qu'il ne passe à l'acte, alors que c'était possible et à plusieurs reprises. David Lebars est le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Il siégeait lors de ce conseil de discipline.
Vous avez bien conscience que dans une affaire aussi dramatique, une affaire très grave qui a abouti à la mort d'une femme, les dysfonctionnements dans une chaîne pénales ne peuvent pas être uniquement regardées du côté police nationale. La police nationale fait ce travail-là aujourd'hui avec des conseillers de discipline. J'espère que le ministère de la Justice en fera autant du côté de la chaîne pénale. Ceux qui ont essayé de faire croire que la police nationale n'exerçait pas de pouvoir disciplinaire ou que l'IGPN était une blanchisseuse, vous avez la démonstration aujourd'hui que ça n'est pas le cas et que ça n'est pas vrai.
À l'unanimité, la hiérarchie policière et les représentants syndicaux qui siégeaient à ce conseil de discipline pour les commissaires ont proposé des sanctions administratives individuelles, dont une exclusion temporaire de 3 jours avec sursis. Ce sont des sanctions dit du premier groupe, donc qui ne correspondent pas à des fautes lourdes. Ce devrait être le cas également, selon nos informations, lors de l'audition des officiers qui se poursuit et des gardiens de la paix à Bordeaux. Ce sera ensuite à la discrétion du ministre de l'Intérieur et du patron de la police nationale de suivre ou non les recommandations de ces conseils de discipline, avec évidemment la possibilité de les réduire ou de les aggraver.
Emmanuel Leclerc, au chapitre judiciaire encore, la confusion au procès des attentats du 13 novembre où les audiences n'ont toujours pas repris, les débats pourraient reprendre jeudi, mais à la condition que le test PCR de Salah Abdeslam, le principal accusé, soit négatif, un test toujours pas transmis à la prison de Fleury par le laboratoire. Dans l'affaire du crash de Sharm el-Cheikh, c'était une mise en examen très attendue par les familles des victimes, première en 18 ans d'enquête. L'ancien patron de la compagnie égyptienne Flash Airlines a été mise en examen en décembre à Paris. Le crash d'un Boeing 737 en 2004 avait fait 148 morts, dont 134 Français. On y revient dans le journal de 19h d'Hélène Philly. La rentrée politique d'Éric Zemmour. Le candidat adresse en ce moment même ses vœux à son équipe et aux militants les plus investis de sa campagne. À la galerie Joseph, dans le 4e arrondissement de Paris, une équipe dont les noms ont émergé dans la presse ces dernières semaines, avec Élodie Forêt, quelques polémiques à la clé.
Oui, d'abord le cas Vincent Huère, haut fonctionnaire de Bercy qui dans l'ombre travaille pour Éric Zemmour, sauf que depuis 2020, il est détaché auprès de la Commission européenne qui certes l'autorise à avoir une activité extérieure mais à condition que ce soit compatible avec ses intérêts. Et là, la question se pose puisque le programme d'Éric Zemmour prévoit de réduire les pouvoirs de la Commission qui examine donc actuellement la demande de Vincent Huère en relation avec les autorités françaises. Le staff Zemmour, lui, n'y voit aucune incompatibilité puisque UR n'a jamais été exposé médiatiquement. Aucun problème non plus avec le directeur de campagne, le général Bertrand de la Chesnaye, officier réserviste et donc normalement soumis au devoir de réserve. Mais là aussi, les zémouristes s'en sortent avec une pirouette puisque le général s'exprime peu, voire pas dans les médias. Enfin, il y a Jean Messia, soutien de longue date et qui devrait, selon un cadre de reconquête, devenir porte-parole de la campagne. Et ça, malgré l'enquête du journal Le Monde qui révèle que l'énarque aurait été écarté du RN car il plagiait les notes qu'il écrivait et pour lesquelles il était rémunéré. Une information, commente-t-on dans le camp Zemmour, qui n'a pas provoqué le moindre remous.
Élodie Forêt du service politique d'Inter. En politique encore, François Ruffin a-t-il choisi le candidat qu'il soutiendrait à la présidentielle? En tout cas, le député insoumis de la Somme devrait être présent à un meeting de Jean-Luc Mélenchon le 11 janvier prochain au Mans. Ce refuge inattendu pour 70 migrants en mer Méditerranée environ, donc 70 d'entre eux se sont réfugiés hier soir sur une plateforme pétrolière de Shell avant d'être remis aux autorités tunisiennes. Près de 115 000 migrants ont réussi à rejoindre l'Europe l'an dernier.
Et puis on termine, Sébastien, avec une information très grand public mais qui ne va pas ravir tout le monde.
Ouais, les tarifs bancaires vont encore augmenter cette année, entre 2 et 3 % de plus pour ces frais que font payer les banques pour l'utilisation d'un compte ou d'une carte bleue. Constat d'une étude de la CLCV, l'association Consommation Logement Cadre de Vie, que Delphine Simon a pu consulter.
Oui, les frais bancaires augmentent pour deux profils sur trois. D'abord, pour les clients qui consomment peu de services, leur banque leur coûte 68 euros par an. Deuxièmement, pour les consommateurs moyens qui payent jusqu'à 150 euros de frais bancaires. En cause, les tarifs des cartes de paiement, lorsqu'elles sont à débit immédiat, les frais de tenue de compte, mais aussi les retraits d'argent aux distributeurs, car certaines banques abaissent le nombre de retraits gratuits hors de leur réseau, explique Sandrine Perrois, juriste à la CLCV.
Forcément, ça s'accumule, vous pouvez avoir à payer 12 euros de plus ou 24 euros de plus si vous faites un ou deux retraits par mois supplémentaires payés en fait. On trouve moins de distributeurs, il y a aussi des agences effectivement qui ferment, donc les consommateurs parfois sont contraints de retirer dans une banque qui n'est pas la leur et par conséquent effectivement peuvent être soumis à cette facturation s'ils dépassent la franchise.
L'association pointe des écarts qui vont de 1 à 3 selon les banques, en particulier dans 4 réseaux nationaux, la Banque Postale, LCL, BNP Paribas et la Société Générale. Mais les écarts existent aussi au sein de chaque banque lorsqu'on adhère par exemple à l'offre de services groupés.
Un consommateur qui utilise peu de services, en fait dans notre enquête, il n'y a que 6 banques dans lesquelles l'offre packagée est intéressante.
Mieux vaut donc se montrer vigilant et faire jouer la concurrence, conseil déjà donné l'an passé.
Oui, Delphine Simon au service économique de France Inter, la CLCV qui conseille de comparer donc les offres bancaires évidemment.
Eh bien merci beaucoup Sébastien Legénie, on se retrouve tout à l'heure dans Sous les radars, vous viendrez notamment avec sous le bras une incroyable collection de vinyles de musique africaine. Ce soir, le grand invité du 18-20, avec lui nous sommes à Hong Kong et puis le téléphone sonne. Tiens, je vous le remets en tête, allez-y. On parle de campagne électorale empêchée ce soir à cause du Covid qui cannibalise cette rentrée. Faire campagne sans meeting géant, est-ce que c'est vraiment faire campagne ou la télé est-elle de toute façon reine? Et puis, quand le débat démocratique, on le voit bien à l'Assemblée, est phagocyté par le Covid, est-ce qu'on s'inquiète à quelques mois de l'élection? Tout cela, bien sûr, aux 01 45 24
7000. Un œil sur le ciel de demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Des températures en baisse pour demain.
Oui, bonsoir. En effet, on a des pluies qui traversent le pays aujourd'hui et qui laissent derrière elles de l'air plus froid, donc souvent moins 1 à 3 degrés demain matin. Attention d'ailleurs, ça pourrait glisser sur les routes du nord-est. Et puis l'après-midi, il fera 5 à 10 degrés sur la plupart des régions et 9 à 16 autour de la Méditerranée et en Corse.
Et plus de soleil aussi.
Oui, un beau soleil en Méditerranée avec du vent fort, Mistral, Tramontane, jusqu'à 90 à 110 km à l'heure. Sur les Alpes-Maritimes et surtout sur la Corse, quand même pas mal de nuages et des averses. Des nuages encore assez nombreux aussi sur les Pyrénées, du massif central au flanc est avec quelques averses, un peu de neige vers 300 à 400 mètres. Et puis ailleurs, de belles éclaircies au menu et même beaucoup de soleil le matin du Nord-Pas-de-Calais vers l'Île-de-France, Poitou-Charentes, la Garonne et parfois une petite averse tout de même entre la Bretagne et la Normandie.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.